Voilà. Alors, juste une petite remarque, Guy, dans ton intervention, tu dis la bourgeoisie et l'aristocratie, mais justement, je pense que enfin, si on veut regarder ça d'un point de vue historique, on ne peut pas les mettre du tout dans le même sac, hein, l'aristocratie et la bourgeoisie. Au XVIIIe siècle, elles s'opposent, et au XIXe siècle, elles s'opposent encore.
Oui.
C'est-à-dire que l'idéal aristocratique n'est pas du tout l'idéal bourgeois. Hein. Donc, et l'idéal bourgeois n'est pas un idéal d'oisivité du tout. Je pense qu'il faut, enfin, si on veut analyser le sujet comme ça, même en termes politiques, et je pense qu'il a une dimension politique, en effet, justement, je pense qu'on va devoir faire la différence, en particulier en France, parce que c'est pas vrai, par exemple, en Angleterre, c'est pas vrai dans les pays protestants, mais en particulier en France, il y a une différence nette entre l'idéal aristocratique et l'idéal bourgeois. Ils se sont opposés. Enfin, la Révolution française est un événement lié à cette opposition entre l'idéal aristocratique et l'idéal bourgeois, et qui est lié d'ailleurs à l'oisiveté. Donc, je veux dire, on va tirer un fil, je pense, mais qui va être intéressant de ce point de vue-là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ce proverbe était probablement un proverbe, donc, on va dire, des classes supérieures, qui ne se l'appliquait pas à elles-mêmes, mais qui aurait peut-être mieux fait de se l'appliquer à elle-même. mais on pourra, on va voir, on va creuser. Mais est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Allons, allons. Alors vous avez vu, hein, en supprimant la présentation, on se croirait dans Zoom. c'est François, hein, je crois, hein, François, et puis après Jacques.
Non. Bizarre. Le sujet est très intéressant et on peut peut-être le prendre par le côté absurde aussi. Si l'oisiveté est la mère de tous les vices, chez les non-oisifs, il ne devrait pas y avoir de vices. Et on peut, enfin, si on regarde la pratique des choses qui ont été évoquées, la drogue, l'alcool, luxure éventuellement, etc., on peut constater qu'elle est présente également chez des gens qui ne sont pas oisifs du tout. Et donc, si cette proposition devait être vraie, elle interroge aussi sur ce qu'on appelle vice, du coup, peut-être. Si on veut qu'elle soit vraie, il faut spécifier une catégorie particulière de comportement pour ne pas les retrouver chez les gens occupés et les trouver chez les gens qui ne sont pas occupés, en fait.
Oui, alors là, tu insistes sur, enfin, tu mets l'accent sur un mot important dans le proverbe, c'est tous les vices. Et en effet, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien la mère de tous les vices? Là, c'est vrai que c'est. Là, la réponse est presque évidente, mais. Alors, ah oui, Annie me dit, est-ce que je peux redonner la définition de départ? Oui, donc pour ceux qui sont arrivés en cours. Roger, au début, a donné une définition donc issue du dictionnaire. Alors, je n'ai pas les mots précis, mais donc c'est un état. L'oisivité est un état d'inactivité, hein, donc lié à l'activité, lié au travail. Enfin, c'est le contraire. C'est un état dans lequel on ne travaille pas, mais de façon permanente. Hein. C'est-à-dire que la définition insistait sur la durée longue de l'oisivité. C'est-à-dire, hein, ça s'oppose à ce qu'on disait, à des périodes de repos ou de loisirs qui succèdent à, comment dire, à des périodes de travail. Donc, voilà, regarder la télé ou lire un livre une fois qu'on a fini sa journée de travail, ce n'est pas de l'oisiveté. L'oisiveté, c'est quand on ne travaille pas. Voilà, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pendant un certain temps, mais un temps long. Hein, pas juste quelques heures après une journée de travail. Hein. Voilà. Donc, Jacques. Oui, c'est bon.
L'oisiveté, oui, elle peut être mère de vice ou de vertu selon ce qu'on en fait. Parce que quand on a un travail, ça donne un cadre. On est comme sur des rails, donc on risque pas trop de dérailler. Alors que quand on est dans l'oisiveté, on fait ce qu'on veut de son temps. Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on en fait. Après, il peut y avoir un côté manipulatoire parce que le travail, c'est du temps qu'on donne à la société et l'oisiveté, c'est du temps pour soi. Donc, ce genre de dicton, ça peut être quelque chose de manipulatoire et qui est diffusé par la société pour qu'on soit à son service. Et en fait, là, on voit en ce moment que quand on ne fait que ce qui est indispensable, on fait beaucoup moins de choses, on travaille beaucoup moins. Et donc, je me demande, est-ce que en temps normal, on n'en ferait pas trop, on ne ferait pas du travail superflu, peut-être pour éviter que les gens soient trop dans l'oisiveté.
Ok, oui, d'accord. Cette idée, alors, ça dépend de ce qu'on en fait. Est-ce que dans le proverbe, dans la sentence, hein, l'oisiveté est la mère de tous les vices, il n'y a pas l'idée que, au fait, au bout d'un certain temps, on finit par être pris par un mécanisme qui fait que on va finir par, enfin, dans le vice. Hein, c'est-à-dire que si on a une période d'inactivité, bah, au début, on se dit, OK, je vais lire, je vais faire mon jardin, etc. Donc, des choses qui ne sont pas des vices. Et puis, qu'au bout d'un mois, deux mois, bah, on va commencer à regarder un peu plus longtemps la télé ou à faire je ne sais quoi, à boire un peu, et puis à boire un peu plus, et puis à la fin, à être complètement alcoolique, hein, au bout de 6 mois ou 9 mois. Encore une fois, ce qui est important dans cette idée, il y a quand même la notion de durée. Hein, ce que donc, quand on dit c'est la mère de tous les vices, hein, la mère, c'est ce qui engendre. Hein. Donc, ce n'est pas l'oisiveté égale vice, mais c'est l'oisiveté engendre peut-être, hein, enfin, en tout cas dans le sens du proverbe, engendre peut-être le vice. Hein,
moi, je crois que non, pas forcément. Ça, ça dépend, ça peut varier d'une personne à l'autre, je pense.
D'accord. Alors, oui, Leslie. Voilà, oui, c'est bon.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez là?
Oui.
Ouais. Ok. Oui, par rapport à notre sujet, effectivement, je me demandais aussi de quelle oisiveté on parlait. Parce qu'effectivement, l'oisiveté n'a pas eu le même sens au cours de notre histoire et apparemment, c'est quelque chose effectivement de culturel. Par exemple... Lorsque nous nous sommes retrouvés en confinement, je me suis dit « chouette, on va pouvoir pratiquer l'oisiveté ». Et effectivement, j'étais en train d'inviter tout le monde à relire avec délice Sénèque, dont je pensais que le titre c'était « De l'oisiveté », mais c'est pas ça, c'était « Du loisir » en fait. Lui, il appelle ça le loisir, par opposition justement à... aux affaires, à la politique, etc. Et il se trouve qu'effectivement, donc j'ai relu ce livre avec qui m'a beaucoup plu, donc, ou cet extrait plutôt. Et lui, il dit que bah, le loisir, c'est du temps occupé. Et c'est du temps qui est occupé soit par la contemplation, soit par le plaisir, ou soit effectivement par l'action. On peut aussi être actif dans l'oisiveté. Ce qui n'est pas du tout la conception, effectivement, à partir du moment où on parlait du 19e siècle, où l'oisiveté, bah, c'est pour justement pas pour la bourgeoisie, c'est aussi pour les ouvriers quand ils ne travaillent pas et qui se livrent à la débauche. Et donc, c'est associé, effectivement, à du temps de débauche ou à du temps de paresse, parce qu'on a cette civilisation qui est très portée sur le travail, donc qui n'a pas du tout la même... conception qu'on pouvait en avoir avant. Et dans ce sujet aussi, je me pose la question, comme mes collègues, je pense, de quel vice parle-t-on ? Parce que les vices aussi, ils ont évolué. Est-ce que c'était les vices par opposition à la vertu ? Alors, je crois que chez Platon, on avait 4 vertus, mais je ne me souviens plus. Donc, il y avait la justice, la tempérance, le courage, et puis je ne sais plus quoi. Et est-ce que par opposition... dès qu'on se lance dans l'oisiveté, est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore, effectivement, et tous les vices sortent? Est-ce qu'ils sont effectivement au même degré? Est-ce qu'ils sont opposés à ces vertus qu'on recherche et qui sont des vertus, effectivement, qui évoluent? Donc, par exemple, pour les chrétiens, le vice, bah, c'est pas le même que, par exemple, chez dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, Sénèque, j'étais en train de le relire, nous dit non seulement les vices existent, mais en plus, ils changent tout le temps. Donc, il dit, en plus, on peut même pas être constant dans le mal qu'on fait, on peut même pas devenir familier dans ce qu'on fait de mal. En plus, ces vices-là que l'on a en nous changent, évoluent au fil du temps. Donc, on peut même pas s'habituer à l'un ou à l'autre. Voilà, donc c'est par rapport aux vices. Et effectivement, je voulais me poser la question, c'est de quels vices on parle si on est oisif, soit dans le sens de la paresse, soit même y compris dans le sens ancien où on se livrait à la contemplation. Et alors même que Sénèque nous dit justement que lorsqu'on est dans ce temps qu'il appelle le loisir, qu'il a choisi en plus, justement, ça nous mène à la vertu. Lui, au contraire, il pense que ça nous mène à la vertu.
Oui, ce qui est intéressant, c'est vrai que le fait que... vice, c'est un mot qui n'a pas un sens absolu.
Ça ne veut rien dire.
Voilà, ça a du sens dans un système de valeurs morales données.
Ouais.
C'est vrai que dans un système de valeurs morales données, bien évidemment, vice, comme toute morale, une morale va définir des vices et des vertus. Même si on est nietzschéen, on va dire on peut avoir son propre système de valeurs morales, mais il n'empêche que dans ce système-là, il y aura des vices et des vertus. Donc c'est vrai que forcément là on rentre dans un certain relativisme par rapport à ce sujet-là. Bon, on va creuser. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole? Bon. Donc Guy, vas-y.
Oui, pour répondre à Leslie, l'oisiveté n'est pas forcément un temps occupé. Il peut y avoir une oisiveté où il n'y a aucune action. Je crois qu'on va en parler, on va trouver des entrées. Et est-ce que systématiquement le vice va suivre un temps d'oisiveté chez une personne qui ne serait pas habituée d'ailleurs à l'oisiveté? Je crois que le vice, il est présent. Il est présent à la personne, il va se réveiller, mais il est plus ou moins présent, et ce n'est pas toujours l'oisiveté, parce qu'on peut tomber dans l'oisiveté. Par exemple, voilà, la période de déconfinement, tout le monde n'a pas pris 5 kilos, tout le monde ne s'est pas mis à consommer plus d'alcool, à prendre l'apéritif tous les soirs. Je crois qu'il y a une propension chez l'individu qui fait que le mal se réveille peut-être dans un temps d'inactivité, un temps oiseux, je dirais.
Oui, oui. Je suis d'accord. Enfin, sur tout le monde, c'est évident. Par contre, les médecins, quand même, parce que ça fait quoi, un mois et demi D'abord, le confinement, c'est pas l'oisiveté. Hein, moi, je suis pas oisif. Hein, je continue à travailler, avoir une activité professionnelle. Hein, je veux dire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais malgré tout, les médecins redoutent des conséquences psychologiques à ce confinement, hein, et à cette période pour certains d'inaction qui se retrouvent au chômage partiel, par exemple, et confinés. Alors là, vraiment, en effet, ils sont il y a une double peine en quelque sorte, hein, c'est-à-dire l'inactivité, qui peut devenir oisiveté. Ça fait qu'un mois et demi, encore une fois, la fameuse durée de Roger, elle est peut-être pas encore là. Et le fait de ne pas pouvoir sortir, donc pour certaines personnes, c'est difficile de faire des choses. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que les médecins redoutent quand même des conséquences psychologiques qu'on pourrait assimiler à des formes de vice, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que les gens seront un peu déprimés, etc., c'est peut-être que là-dedans, il y en a qui vont se mettre à boire. Enfin, je veux dire, c'est probable d'ailleurs, hein, c'est... à boire ou je ne sais pas quoi, à faire... Mais on... voilà. Oui. Alors, ton prénom, Alaïs, le micro, on ne l'entend pas là. Ah, on ne t'entend pas, et apparemment, tu n'es que sur haut-parleur. Le micro n'est pas activé. Alors, je ne sais pas. En fait, il faudrait refaire. Normalement, quand tu cliques, alors là, je pense que si tu cliques sur le micro, peut-être que le système va te redemander de tester le micro, quelque chose comme ça. Et là, il n'est pas connecté, en fait, le micro. Il faudrait refaire, ou alors te déconnecter, te reconnecter, et à un moment donné, il te dit est-ce que vous voulez utiliser le micro ou pas. Enfin, il y a un processus comme ça, où il demande si on veut utiliser le micro ou pas. Et si on demande d'utiliser le micro, à ce moment-là, il y a un petit test qui se fait où on parle dans le micro et on s'entend et on dit « Ah oui, c'est bon, ça marche. » Voilà. Donc, malheureusement, là, on ne peut pas t'entendre. Oui, est-ce que donc d'autres personnes…
Daniel.
J'ai pas… Daniel a demandé la parole ? Mais… Ah oui, Daniel, on ne la voit plus. Donc, ah bah, on ne te voit plus, ta webcam. Pas de problème. Vas-y.
Oui, j'ai un problème de connexion et donc j'ai été expulsée de nouveau.
Ah, c'est dommage.
Et quand je ne mets pas la caméra, il me semble que ça prend moins de...
Oui, de bande passante, hein, comme on dit en informatique. Ont
des problèmes de connexion, oui. Il vaut mieux retirer la caméra.
Oui, 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 tout à fait. Et alors, je cherche alors juste pour sur ce point-là, qui est technique. Au bout
d'un moment, je n'entendais plus, vous avez une voix hachée, et là, je sais que ça va… Ouais. Alors, je ne sais plus… Ah oui, tu parlais du…
Donc, vas-y.
Tu parlais des problèmes de problèmes psychologiques pendant le confinement,
oui.
de soutien aux parents, et ce qui est le manque de contacts sociaux, plutôt que le fait d'être inactif. Il y a aussi le manque de lien social qui fait que, ou que le lien social est uniquement avec les gens qui sont proches, qui ça remet une distance qui n'est pas, enfin une distance rapprochée qui n'est pas le même que d'habitude, et ça crée beaucoup de soucis. Les violences familiales ont beaucoup augmenté, de 30%.
Oui, oui, donc c'est le double effet, hein, ce que je disais. Hein, il y a à la fois inactivité plus confinement, donc isolement, etc. Oui, je suis d'accord. Donc, Alex, a priori, c'est bon, parce que maintenant, tu as une petite icône du micro, donc ça doit être bon. Vas-y.
Est-ce qu'on m'entend, là ?
Très bien.
Super. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. Par rapport à la question de l'oisiveté, et puis je vois que Virginie en a parlé aussi, quel rapport est-ce qu'on peut faire entre la l'oisiveté et l'ennui ? Parce que l'ennui, effectivement, ça peut peut-être conduire effectivement à un certain nombre de vices, comme le suggère Virginie. Est-ce que c'est pas aussi l'ennui ? Enfin, c'est même sûr, l'ennui peut aussi être à la source d'une créativité. On essaye de faire quelque chose. J'ai des enfants en bas âge et je sais bien qu'ils ont besoin de s'ennuyer de temps en temps. Pour qu'ils puissent ensuite créer des choses et avoir des idées. Alors l'idée, c'est effectivement qu'on arrive toujours à une activité. Alors je ne sais pas si c'est compatible avec la durée dont on parle pour l'oisiveté, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir au rapport entre ennui et oisiveté ?
Oui, c'est vrai. Enfin, l'ennui, c'est plus une réaction psychologique liée à l'inactivité, mais c'est lié, enfin, donc l'oisiveté peut déboucher sur l'ennui et qui elle-même peut après déboucher sur d'autres choses, c'est évident. Alors, est-ce qu'il y a d'autres ? Ah, Leslie, vas-y.
Oui, je me demandais par rapport aux différentes questions qui ont été posées là. Donc tout à l'heure tu parlais de l'effet du confinement, effectivement qui n'a rien à voir avec l'oisiveté, mais est-ce que vice et souffrance c'est la même chose ? Est-ce que le confinement ouvre la porte à toutes les souffrances ? Est-ce que ça peut pas être bien vécu aussi ? Et est-ce que souffrance et vice, est-ce que c'est la même chose ?
Ah oui.
Je ne sais pas.
Ouais, ouais,
parce que vice, effectivement, c'est il y a un jugement moral, c'est par rapport à une morale à un moment donné. Souffrance, les médecins craignent des pathologies, mais qui sont liées à la souffrance, qui ne sont pas forcément un mal en soi. L'alcoolisme n'est pas un mal en soi, le tabagisme non plus, c'est juste que ça a des effets nocifs sur la santé. Même si on sait effectivement qu'il y a un regain des addictions, là, le fait d'être enfermé, recréent des addictions, hein, effectivement, ou les augmentent, ou les ravivent, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on parle bien de la même chose ? Je ne sais pas.
Oui, ben, on voit un peu juste le mécanisme tout à l'heure, hein, dans l'idée de mère de tous les vices, c'est que ça engendre. Donc, c'est qu'on est dans un processus d'engendrement. Alors, peut-être que la souffrance est dans le mécanisme, une étape du mécanisme, quoi. Voilà. Mais c'est Guy qui t'a demandé la parole.
Je remets mon micro. Oui, je voulais répondre à Leslie. Il y a un lien, effectivement, entre ennui et souffrance. Effectivement, l'ennui est une souffrance. Et là, je crois qu'on est dans une oisiveté subie. Et l'oisiveté subie, c'est celle-là qui est la plus mauvaise. Et on revient toujours. Quelle est l'aptitude des gens à utiliser ce temps d'oisiveté ? Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être voir aussi... Alors, vas-y, Roger, je t'en prie.
Est-ce que l'oisiveté, finalement, ce n'est pas mourir d'ennui ?
Non. Ça peut être une conséquence de l'oisiveté.
Oui, voilà.
Hein ? Comme tu disais, hein, l'oisiveté, c'est un état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une période assez longue de notre vie, ou par statut, dans le cas de l'aristocratie au sens français post-Louis XIV, par statut, l'aristocratie était oisive. Après, un peu, peut-être qu'une partie mourrait d'ennui, une autre partie ne mourrait pas d'ennui. Après, tout ça, c'est des conséquences. Mais c'est ça qui peut être intéressant.
Oui, la période, il y a eu la période romantique, mélancolique.
Tout à fait. Et la mélancolie est presque considérée, dans certains systèmes de valeurs morales, la mélancolie est quasiment considérée comme un vice, justement. Hein. C'est-à-dire que la personne devient un peu déprime. Enfin, à une certaine époque, la mélancolie, c'était un peu l'équivalent de la dépression, quoi. Des personnes qui s'enfermaient dans un... Comme ça, pour des raisons, on n'analysait pas bien les causes, hein, à cette époque-là. Mais dans un système un peu, justement, de mélancolie, qui était un enfermement mental, en quelque sorte. Hein. Alors, à François, puis après Leslie.
Oui, je voulais faire deux remarques. L'une est un peu liée à la discussion qu'on a eue il y a deux semaines sur le libre arbitre et quelque part le caractère un peu probabiliste de ce qui nous arrive. Si on reprend cette perspective et qu'on se pose la question de savoir si un individu a un risque ou pas d'aboutir au fait d'être atteint d'un certain vice, il est vraisemblable que si on voulait faire une observation un peu data de cette question-là, on prendrait des gens dans un tas de situations, on regarderait s'ils y aboutissent ou pas, et peut-être qu'on découvrirait qu'effectivement, le fait d'être, entre guillemets, abandonné à soi-même, avec donc, entre guillemets, toutes les libertés de choisir ses activités, de choisir ses réactions morales face au fait d'être aussi libre, entre guillemets, de faire ce qu'on veut, favorise effectivement l'apparition des vices. Et de ce point de vue-là, je pense que je ne serais pas étonné qu'on trouve qu'effectivement, le fait d'être libre de faire ce qu'on veut, d'être oisif, est un des facteurs clés qui amène plutôt à une évolution plutôt qu'à une autre. Ça, c'est la première remarque ou idée que je voulais lancer. La deuxième, c'est que si on prend cette maxime comme vraie, on n'a absolument pas envie de donner des revenus sociaux, quels qu'ils soient, qui peuvent permettre éventuellement aux gens de rester oisifs, c'est-à-dire de ne pas travailler durablement, et on n'a surtout pas envie d'explorer l'idée de la possibilité d'un revenu universel. C'est donc quelque chose qui est en opposition en tout cas très forte avec des débats que beaucoup de gens poussent comme étant une bonne chose à mettre en place aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que la société aujourd'hui tend à répondre au fait que cette maxime est fausse ou qu'en tout cas, sa conséquence est moins grave que celle de laisser quelque part dépérir des gens dans le besoin.
Oui, c'est vrai que ça a été un argument utilisé lors... qui est utilisé lors des débats sur le revenu universel, clairement. Et voilà, l'oisiveté, la mère de tous les vices. Donc, encourager les gens à rester oisifs, c'est pas une bonne chose pour la société. Oui, c'est un argument qui est utilisé dans ce débat-là. Oui. Donc, Leslie, t'avais demandé la parole.
Oui, je réagissais par rapport à ce qu'on disait sur l'ennui. Je me dis que c'est dans la littérature, c'est vraiment le problème de Madame Bovary. Ben, elle s'ennuie, hein, franchement, elle ne sait pas quoi faire, etc. Et du coup, ça l'amène quand même, la morale de l'histoire, c'est que ça l'amène quand même au suicide. Hein. Maintenant, comment elle a occupé effectivement son temps libre? Parce qu'il y a vraiment dans l'oisiveté, je trouve qu'il y a vraiment la question du rapport au temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là qui n'est pas un temps de travail, effectivement, où on est oisif au sens stoïcien, enfin voilà, sachant que l'oisiveté n'est pas seulement mère de tous les vices, il paraît qu'elle est aussi mère de la philosophie, quoi. Donc effectivement, c'est un temps de réflexion, de création. Comme le disait Aloïs, c'est pas forcément un temps d'ennui, mais ça dépend ce qu'on met dedans. Bon, alors Madame Bovary, effectivement, ça l'amène à tous les vices, effectivement, dont le fait d'avoir des amants, ce dont elle se punira elle-même à la fin de sa vie, effectivement. Mais peut-être que effectivement, dans la loisiveté, on peut y trouver effectivement peut-être les vices au sens chrétien, mais si par loisiveté ça nous amène à la luxure, la gourmandise, la paresse, finalement ça, il peut y avoir par certains côtés aussi un côté réjouissant ou agréable aussi. Donc on peut effectivement questionner ça.
Oui, alors Bovary, c'est... Ça fait partie du sujet, ouais. Bovary, l'oisiveté de Bovary. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que au 19e siècle, ça a vraiment été un sujet de réflexion assez profonde. Hein. Enfin, je veux dire, enfin, profonde, assez courant. Il hein. Un roman de Zola c'est Gervaise, je crois, sur l'alcoolisme. Oui. Où justement son mari se retrouve accidenté, donc il devient alcoolique. Et elle-même, après, finit par devenir alcoolique aussi. Enfin, bref, c'est un roman noir de chez noir de Zola, mais qui, justement, aussi interroge sur le rapport entre l'oisiveté et là, en l'occurrence, le vice de l'alcoolisme, hein, qui était un vice assez fréquent au 19e siècle. Enfin, un vice. Alors, comme tu disais, Leslie, hein, c'est pas forcément un vice, mais en tout cas, qu'on considérait comme un vice au 19e siècle. Voilà, c'est l'Assommoir, oui. Voilà, c'est très juste. Merci Anne-Marie. Mais le personnage, c'est Gervaise, donc c'est vrai que de temps en temps. Ok. Annie, première prise de parole, vas-y.
C'est bon là le micro? Ouais. Donc en fait, si j'entends bien tout ce qui est dit, dans la notion d'oisiveté, pour moi, il y a le mot-clé qui irait avec oisiveté, ce serait liberté. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse être oisif si on n'est pas libre de son temps. C'est-à-dire que ou qu'on s'en rend pas libre. C'est-à-dire si on est, je sais pas, par exemple, dans une période de chômage, on n'a pas choisi d'être dans une période de chômage. Mais on peut quand même choisir ce qu'on va faire du temps. Du temps qui s'offre à nous et qui n'existait pas auparavant, au moins. Et donc, cette notion de liberté, ça me renvoie, moi, à ce que Virginie disait tout à l'heure par rapport au « le vice n'est-il pas une mascarade pour tuer l'ennui ?» Et je me demande si, effectivement, le fait de se retrouver face à soi-même quelque sorte libre, donc responsable, si c'est pas ça qui pose problème, enfin qui peut éventuellement poser problème ou pas selon les individus, c'est-à-dire le fait de se dire qu'est-ce que je fais de ma peau, quoi, tout simplement, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans n'importe quoi en fait, mais qu'est-ce que je fais de ma peau, qu'est-ce que je fais de ma peau? C'est-à-dire, est-ce que je fais quelque chose pour moi-même parce que c'est ce que j'ai envie de faire? Ou est-ce que je fais quelque chose envers les autres parce que j'ai besoin de partager ou parce que je pense que c'est nécessaire? Parce que rien faire du tout, ni pour soi, ni pour les autres, ça me semble... c'est une idée que je n'arrive pas à construire. Voilà. En tout cas, pour moi, cette notion de liberté, par rapport à, elle est forcément liée, enfin, elle est sous-jacente à l'oisiveté, et cette liberté, elle engendre du coup une responsabilité, ne serait-ce que face à soi-même, et que c'est peut-être bien de là que viendrait éventuellement ben, la naissance du vice. Ou pas.
Oui, oui. Alors, d'autres prises de parole. Alors, Guy, tu dis au début était l'oisiveté, mais non, Dieu n'est pas oisif puisqu'il crée le monde. Donc, justement, au début était le travail.
Oui, mais Dieu n'est pas immortel et nous sommes des mortels. Ah. Alors, au début était l'oisiveté. Le parangon de l'oisiveté, l'oisif number one, c'est Adam. Hein, et pour une triste histoire de pomme, il va falloir qu'il gagne la vie à la sphère de son pain. Je vois que Alocine n'est pas d'accord avec moi. Oui. C'est bien, Alocine, ça permettra de débattre ensuite. Et je crois que, effectivement, c'était le premier homme libre. C'est, là, on nous rejoint à la liberté. Et je pense que l'oisiveté, cette forme de liberté, c'est une façon de conjurer la damnation. Voilà, je ne suis pas religieux, je n'utilise pas des termes comme ça, mais je pense que c'est encore une autre façon de voir.
Ouais, non, mais justement, l'histoire d'Adam, c'est intéressant, parce que c'est aussi une histoire sur l'oisiveté, hein, qui débouche sur le péché, etc. Enfin bon. Laïs ?
Alors, si on regarde le texte biblique de près, la malédiction après la pomme, ce n'est pas le travail, c'est la souffrance au travail. Avant ça, en fait, Adam travaillait aussi. Dieu, si vous regardez les textes un peu attentivement, Dieu demandait à Adam et Ève de travailler la terre, de s'occuper des animaux, de s'occuper des arbres, etc. Donc le travail est déjà dans l'Éden. C'est la souffrance au travail qui vient après, mais pas le travail en tant que tel.
D'accord. Intéressant. Non, intéressant. Au Moyen-Âge, les laboureurs se considéraient comme les descendants d'Adam, parce que justement, Adam était le jardinier de l'Éden et eux étaient les jardiniers de la terre. Donc il y a une légende comme ça de. Oui, Jacques, justement, je crois qu'il y a justement la légende d'un Jacques qui était laboureur et qui était le descendant d'Adam. Allez, vas-y, Jacques.
Oui, alors en fait, à l'origine, on n'avait pas besoin de travailler, hein, puisque la nature nous offrait tout gratuitement à l'époque des. Chasseurs-cueilleurs, et il paraît que, qu'en fait, à cette époque, on travaillait beaucoup moins. Les humains avaient beaucoup plus de temps libre. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, peut-être, grâce à leur intelligence, ils se sont aperçus qu'on pouvait aider la nature, l'aider à produire plus, et à ce moment-là, c'était tentant de l'aider pour qu'elle produise plus. Et là, on a mis le doigt dans un engrenage, parce qu'à partir du moment où on commence à aider la nature, elle s'habitue à notre aide et elle ne peut plus se passer de notre aide. Et donc, on est obligé de continuer à travailler pour l'aider, pour qu'elle produise, par exemple, les plantes domestiques ont besoin d'être entretenues, contrairement aux plantes sauvages qui poussent toutes seules. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas un peu... ça, la signification de ce mythe du jardin d'Éden, en fait.
Là, je trouve qu'on commence à attaquer le sujet vraiment, en fait. Parce qu'on voit l'impact, on analyse ce proverbe, cette maxime, sous l'angle, on va dire, civilisationnel, quasiment. Hein, c'est-à-dire que, en effet, si on oppose les chasseurs-cueilleurs et puis les cultivateurs, hein, les laboureurs, les éleveurs. Là, on voit où se situe l'enjeu de l'oisiveté, quelque part. Hein, c'est-à-dire, les chasseurs-cueilleurs, ils ont été supplantés par les cultivateurs. Ils n'ont pas pu résister à la pression des cultivateurs. C'est une civilisation qui a quasiment disparu sous la pression de ceux qui développaient l'agriculture. Donc il y a un enjeu civilisationnel en fait dans le travail, hein, qu'on pourrait peut-être aborder en se posant la question, est-ce qu'on peut imaginer en effet une société purement de oisifs, fondée sur l'oisiveté? On est une société globalement fondée sur le travail, qui considère l'oisiveté comme un parasite, un vice. Est-ce qu'on peut imaginer une société fondée sur l'oisiveté? Alors, ça serait éventuellement les chasseurs-cueilleurs, mais et qui serait capable d'assurer, bien entendu, sa survie, hein. Il ne s'agit pas juste d'imaginer une société, mais une société qui est capable d'assurer sa survie. Hein, voilà. Leslie?
Je crois qu'on en a un modèle à peu près dans le dessin animé Wall-E, où on a l'impression que personne ne travaille puisque ce sont les robots qui font tout. Et en fait, d'une certaine manière, les robots deviennent des sortes d'esclaves des humains qui sont énormes, qui se font apporter la bouffe. Je sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé. En plus, ils sont même pas capables de marcher, quoi. Ils volent, les humains, ils sont énormes, ils sont dans des sortes de navettes. Ils tournent tous dans le même sens. Et ils ont été obligés d'abandonner la Terre parce que tellement c'était une déchetterie, quoi. Et effectivement, il y a ce petit robot qui trouve une plante verte, qui essaie de la ramener sur la station spatiale, qui essaie de la sauver. Mais c'est ce modèle-là où tous les humains finalement sont oisifs, mais ça conduit totalement à un désastre parce qu'à un moment donné, il y a le vaisseau qui se renverse à moitié. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus sur son petit socle à être servi par ces robots? Et ben, en fait, on ne sait plus. On ne sait plus travailler, réfléchir, penser. Et c'est aussi ce que l'oisiveté nous permet, c'est de réapprendre ou d'apprendre à penser, à réfléchir, et finalement à avoir ce qui était un autre sujet précédent de notre café philo, c'est avoir des idées. Les idées, elles germent pas, en tout cas dans mon cas, hein, elles germent pas quand on est dans le labeur, la besogne, le temps rapide du travail. Elles germent quand on est au repos, et qu'on se penche, ou on contemple, etc. Et tout d'un coup, l'idée germe. En tout cas, beaucoup plus que quand on est dans le rythme de l'action du travail.
Avec encore une fois une nuance, attention, le repos, ce n'est pas l'oisiveté. Enfin, qu'on répète depuis le début. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'oisiveté, si on dit par exemple une société fondée sur l'oisiveté, c'est une société où personne ne travaille. C'est pas juste une société où on a des moments de repos. Hein. Dans l'oisiveté, il y a une notion de durée. On a vu. Hein, il y a quand même. Parce que sinon, après, c'est vrai que si on considère juste que l'oisiveté c'est une forme de repos ou de loisir, c'est évident qu'on résout pas la question. Enfin, on aborde à peine la question. Ce qui est intéressant, parce qu'on a vu que, par exemple, certaines des justifications de l'oisiveté venaient des Grecs ou des personnes comme ça, de sociétés aristocratiques. Hein, et en effet, de société, donc on voit bien qu'il y avait quand même quelque part dans l'oisiveté, il y a presque l'autre face de la pièce, c'est l'esclavage, quoi. C'est-à-dire que si on considère. Mais je ne veux pas répondre totalement à la question, mais voilà, si on imagine une société fondée sur l'oisiveté, est-ce que ça marche comment cette société si. Alors voilà. C'est la question. Oui, Alina? Ton micro est coupé hein, pour l'instant. Voilà, c'est bon.
Non, c'est pas que je voulais parler. Je voulais dire bonjour à Loïs parce qu'on se connaît et je vois son bébé. Voilà. Je ne sais pas, elle ne m'a pas entendu.
Alors, ça, voilà. Un bébé philosophe.
C'est bon.
Moi, j'avais juste une question par rapport à ce qu'on disait sur la société d'oisiveté. C'est présupposé que les chasseurs-cueilleurs, du coup, ce n'est pas du travail ce qu'ils font quand ils chassent et qu'ils cueillent.
Oui, c'est ça. Non, mais ça fait. Enfin, La question est ouverte, hein, en quelque sorte. Hein.
Parce que je viens d'écouter une émission sur les chasseurs de miel et qui existe encore un petit peu en Afrique. Et ça a l'air d'être un sacré travail quand même.
Oui.
Traquer les bêtes ou traquer les abeilles en l'occurrence, etc. Enfin, en quoi est-ce que ça, ce ne serait pas du travail ?
Non, mais je suis d'accord. Hein, mais en même temps, on considère, alors c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites, etc. Bon, qui essayent d'évaluer la charge de travail dans une société de chasseurs-cueilleurs et il semble qu'elle soit inférieure à celle des agriculteurs, en fait. C'est-à-dire que, parce que même par exemple, si on chassait quand on chasse une grosse pièce, bah, ça peut prendre du temps, mais on a à manger pour plusieurs jours, par exemple. Donc, il semble que, statistiquement, on va dire, les chasseurs-cueilleurs travaillaient moins que les premiers cultivateurs. Après, justement, c'est là que c'est intéressant. Enfin, mais il faut développer, hein, il faut réfléchir à tout ce qui se passe, et tout ce qu'a donné la société néolithique. Enfin, la néolithique, donc, c'est à partir de l'agriculture. Hein, tout ce qu'elle a permis de développer. Je ne peux pas développer les chasseurs-cueilleurs pour des raisons qu'on peut examiner. Mais... Donc, il y a quand même derrière tout ça un enjeu de civilisation qu'on peut essayer d'analyser aussi.
Oui. La question, voilà. C'est plus la question de la quantité de travail que l'oisiveté tout court, non ?
Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais on va creuser. Enfin, voilà. Oui, je suis d'accord. Roger ?
Oui. Alors, justement, c'est par rapport à notre société, à notre société actuelle d'ailleurs, notre civilisation, pour un peu de société de production, de consommation, finalement, quelle place laissons-nous à l'oisiveté, c'est-à-dire ne rien faire. Finalement, c'est mal considéré, ne serait-ce que les personnes qui sont un peu exclues de la société, les SDF, les gens même au chômage. Donc, tout de suite, il y a un regard, un autre regard qui est fait vis-à-vis des personnes qui sont occupées, on va dire. Ça, c'est le mot occupation. Et les personnes qui soi-disant, ne font rien. Voilà. Donc, il y a aussi une injustice dans cette société. Finalement, on fait la part entre les gens qui produisent et puis les gens qui sont improductifs. Et est-ce que réellement, nous sommes des improductifs quand on fait de la philo, ou bien quand on a envie simplement de respirer, de chanter, de danser ou de sortir dans un parc et, ou même de s'isoler. Alors je crois que c'est un peu une question piège et pour nous dire que finalement ben, c'est interdit, c'est un peu comme le confinement actuellement, c'est interdit de sortir. Quoi. Donc, mais si on prend des précautions, bien sûr on peut sortir. Mais c'est plus une question fondamentale. Finalement, le confinement nous amène même à cette question. C'est comment vivons-nous ? Quel choix de vie avons-nous ? Quelles possibilités même dans le confinement ? Comment est-ce que nous vivons le confinement ? On va s'apercevoir que les gens vivent le confinement tous de manière différente. Il y en a qui font de la musique, il y en a qui font même du collectif en visioconférence, comme on fait aussi en philo. Et il y en a d'autres qui vont peut-être plutôt s'isoler, méditer, prier. Et au contraire, même se reconstruire. Voilà, parce que c'est peut-être même nécessaire, l'isolement est parfois même nécessaire. Donc pour moi, cette question est un peu une question piège pour nous empêcher finalement de trouver sa vérité, son chemin, qui n'est pas forcément dans le travail, dans le paraître, dans l'excessif. Voilà. Voilà. Je reviens aussi toujours à cette personne. Pierre Rabhi, qui est un être justement qui nous parle d'une société de non pas de renoncement, mais une société qui vivrait un petit peu au ralenti. Voilà. Voilà.
De sobriété.
De sobriété, voilà.
Assez proche d'Épicure. Hein. Rabhi, on peut considérer que c'est vraiment une sorte d'épicurien au sens propre, hein, vraiment. Alors, au sens propre, pas du tout au sens justement qu'on lui a donné après. Mais il y a chez Rabhi une forte influence épicurienne, hein, clairement, enfin, en termes philosophiques. La sobriété heureuse, c'est vraiment la satisfaction des besoins naturels et nécessaires d'Épicure. Hein. Enfin, en tout cas, on en est très, très proche.
C'est pour ça qu'on peut reparler des gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont juste qu'une petite couche superficielle. Je crois qu'il y a vraiment une question fondamentale qui est notre société actuelle, qu'est-ce que nous voulons comme société. Et je crois que les gens ont un peu ras-le-bol justement de cette société de production, de cette consommation excessive, finalement on détruit notre planète et on détruit l'humanité. Voilà. Donc il faut trouver effectivement d'autres sources, et je pense que ce sont des sources intérieures. C'est plus la question de morale, c'est une question vraiment c'est même très intime, c'est l'individu quoi, lui-même. Quelle priorité, quelle place faisons-nous à l'individu dans notre société? Voilà.
Mmh. Ok. Guy?
Oui, je voulais répondre à Roger qui nous a ouvert encore une porte là, en mettant juxtaposant. Comment dirais-je, est-ce que j'ai rendu, juste avant, ne rien faire et l'oisiveté, voilà, ne rien faire et l'oisiveté. Donc on en revient à une certaine forme de l'oisiveté et des loisirs. Lorsque les loisirs sont, par exemple, aller au stade, faire la queue, se retrouver avec des milliers de personnes, ou partir en voyage organisé avec des horaires à l'heure près, à la minute près, est-ce que c'est encore de l'oisiveté? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'oisiveté? Et notamment, la l'oisiveté de ne rien faire. Et donc là, je crois qu'il y a une aptitude. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette aptitude. J'ai organisé quelquefois des randonnées à ski, des voyages pour des proches, des amis. Et très souvent le matin, la question qu'on me posait, est-ce que tu nous as fait le programme? Alors là, oui. Donc ce sont des gens qui seraient peut-être en difficulté si vraiment à un moment donné, ils n'ont rien du tout à faire. Moi, je crois que les bons moments d'oisiveté à ne rien faire, c'est regarder la mer déchaînée, c'est voir un orage dans la montagne, c'est rencontrer un cerf au détour d'un sentier dans la forêt. Là, on est hors du temps. Je crois que c'est des moments d'oisiveté de ne rien faire qui sont des beaux moments d'oisiveté.
Ah ben, t'es un contemplatif, Guy.
Non, je suis une contemplative.
Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Leslie.
Ce que je trouve, c'est que ce sujet, il tourne beaucoup autour de qu'est-ce qu'on fait de son temps, en fait. Comment partage-t-on son temps entre le travail et le non-travail? Mais il faudrait trouver peut-être d'autres critères, en fait, penser autrement. Est-ce que ça se partage seulement entre travail et non-travail? Dans la mesure où, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, nous sommes des mortels, donc ça nous renvoie à notre condition de mortel, et qu'on a un temps limité, en fait. Donc, comment on le partage, on l'occupe, dans la mesure où, effectivement, on a la liberté de ce temps-là, quoi, finalement. Et peut-être que ça nous invite aussi à changer de modèle. Est-ce que c'est simple? Est-ce que effectivement il y a l'oisiveté ou le travail ou le repos ou l'ennui? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on peut le penser autrement?
Je vais faire une. Enfin là, je ne vais pas faire une intervention d'animateur, je vais faire une intervention de participant. Voilà. Parce que c'est un sujet qui. Comme je vous dis, moi, pour moi, c'est un problème. Il y a un problème civilisationnel dans l'oisiveté et le travail, la place du travail dans la civilisation. Tout à l'heure, je faisais allusion à ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Suite à la centralisation de la noblesse à Versailles par Louis XIV, l'aristocratie en France était devenue une classe totalement oisive. Ça n'a pas tenu un siècle et demi, et encore, maximum. Parce qu'en fait, elle était totalement parasite. Moi, je fais partie de ceux qui interprètent vraiment la Révolution française comme l'élimination d'une classe parasite. Voilà, il y avait une classe. Parce qu'avant, la noblesse avait une justification, c'était la classe guerrière. Hein, donc, c'est traditionnellement dans plein de sociétés, néolithiques d'ailleurs, la société se divise en trois classes. Hein. Il y a les travailleurs, en général les agriculteurs, les prêtres, les savants, c'est un peu la même chose souvent dans les sociétés un peu traditionnelles, et les guerriers. Voilà. La noblesse, c'était les guerriers, l'aristocratie, c'était les guerriers. À partir de Louis XIV, c'est fini. Louis XIV a créé une armée de métiers quasiment, de mercenaires, de gens qui étaient payés. Et donc l'aristocratie de la mise à Versailles, pour être tranquille, enfin bref, suite à tout ce qui s'était passé, la fronde et tout ça. Et donc l'aristocratie est devenue complètement, ils passaient leur temps à jouer, ils foutaient rien à Versailles, ils s'ennuyaient beaucoup d'ailleurs. Et la Révolution française, et d'ailleurs on voit, il y a des dessins, si on regarde, il y a des gravures au moment de la Révolution française qui montraient le tiers-état sous le poids, qui pliait sous le poids, ils avaient sur le dos comme ça, de l'aristocrate et du curé, quoi. Voilà. Et encore le curé, au début de la Révolution française, il n'était pas mis en cause. Mais par contre, l'aristocrate, tout de suite, parce qu'il ne servait à rien. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même, dans l'idéal d'oisiveté, et je dis bien oisiveté, c'est-à-dire dans la grande durée, je ne parle pas de loisir ou de repos, c'est complètement différent dans mon esprit. Hein, c'est une période de travail et une période de loisir ne me dérange pas du tout. L'oisiveté, pour moi, c'est vraiment autre chose. Hein. C'est l'absence de travail. Mais derrière cette idée-là, il y a une idée aristocratique et il y a une idée d'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a, ceux qui travaillent, enfin qui vivent qui ne travaillent pas, on va dire. Voilà. Et puis il y a ceux qui travaillent parce que faut bien manger. Hein, même si on revient à la sobriété de Pierre Rabhi, on cultive son jardin. On n'est pas du tout dans l'oisiveté. Hein, je veux dire, c'est très très différent. Hein, et comme le disait Aloïs tout à l'heure, dans l'Éden, Adam cultive l'Éden. Voilà. Donc, je pense qu'il faut. Enfin, je pense que si. Et donc, si on considère si cette maxime, moi, je l'interprète comme l'oisiveté met en péril la société, parce que on n'est pas dans une société mondiale. Et donc, s'il y a une société à un endroit donné qui dit mais nous, on va rien faire. Comment résisteront-ils aux éventuelles agressions de sociétés voisines qui, eux, n'auront pas décidé de ne rien faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, ou si même au sein d'une société qui a décidé de vivre dans l'oisiveté, il y a un groupe qui commence à dire « mais non, mais nous, on va bosser et on va faire des choses ». C'est un peu le… Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin d'Ayn Rand, qui est très mal connu en France, qui s'appelle « La grève » ou « Atlas Schroeder » en anglais. Et c'est un peu ça l'idée. Enfin, c'est un moment. Enfin, c'est l'inverse. Mais c'est les gens actifs, les créatifs, etc., qui à un moment donné disent bon, c'est bon, nous on arrête. Vous nous foutez. Vous arrêtez pas de nous agresser, enfin, etc. Et donc, on va faire la grève. Il y a cette idée aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'oisif, du fait qu'il ne travaille pas, il assure pas sa survie. Ses moyens de vie. Et donc, il y a quand même, et je pense que donc, au fond, le problème de lien entre l'oisiveté et les vices, c'est que l'oisif met en danger la société. C'est-à-dire que si tout le monde devient oisif, la société, elle ne peut pas survivre. Voilà. Je crois qu'il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein, alors, c'est bon, alors après, il y a des ressorts psychologiques derrière ça, etc., si on veut. Mais je pense qu'au niveau philosophique et civilisationnel, pour moi, l'idée, elle est là. C'est qu'on ne peut pas imaginer une société entièrement fondée sur l'oisiveté. Donc, si on ne peut pas fonder une société sur l'oisiveté, ben l'oisif est en quelque sorte ce qu'en économie, on appelle un passager clandestin. C'est-à-dire qu'il est d'accord qu'il y en ait pour qu'il y en ait qui bossent, qui cultivent les champs, qui élèvent des... Enfin bref, qui font des vêtements, qui font tout ce dont on a besoin, ça, il est d'accord, mais pas lui. Voilà. Et donc, il va en quelque sorte profiter du travail des autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle, voilà, en économie, c'est le passager clandestin, quoi. C'est le gars qui veut bien que les autres payent le billet du bateau parce que ça paye les mécaniciens, etc., le personnel qui entretient le bateau, mais lui il dit moi je paye pas mon billet, voilà, débrouillez-vous, mais moi je le paye pas et je monte quand même dans le bateau, hein. Donc c'est le mécanisme du passager clandestin, voilà, c'est ça l'idée. Dans l'oisiveté, il y a un peu cette idée là enfin, selon moi. Voilà. Et selon moi, c'est le sens de de cette maxime qui, encore une fois, ne concerne ni le repos ni le loisir. C'est très différent. C'est l'oisiveté sur une longue période. Voilà. Donc voilà, c'était la fin de mon intervention en tant que participant à ce débat. Mais je me suis senti le besoin de le faire parce que Bon, il y a un peu un état d'esprit général qui dit non, mais c'est super, l'oisiveté, on fait ce qu'on veut, etc. Donc là, je me disais non, on peut pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un peu un débat et qu'il y ait un peu d'autres idées représentées. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a Alexandre le Bienheureux ? Ben oui. Oui, mais en péril de la société, en quelque sorte, Alexandre le Bienheureux. Oui, c'est vrai. Enfin, je suppose que tu étais ironique, mais moi, je le crois, oui.
Mais lorsqu'il est au cimetière et que tout le monde lui demande « Alexandre, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Sa première réponse est « Rien ». Et au deuxième, c'est « Rien ». Et au quatrième ou cinquième, son visage s'éclaire. Enfin, rien faire. Mais effectivement, il va mettre tout le village en émoi parce qu'il met en péril la société. Il ne cultive plus ses terres. Et dans un monde paysan, ne plus cultiver la terre, c'est un crime.
Ah oui.
D'accord, hein, bien sûr.
Oui, Leslie.
Ça veut dire que le chômeur est oisif, il n'est pas que inactif.
Oui, le chômeur. Enfin, là après, mais le chômeur, c'est un système assurantiel, le chômeur. Si, c'est-à-dire que on s'assure.
Ça dure qu'un temps, hein.
Oui.
De plus en plus court. Mais par exemple, les gens qui sont au chômage depuis plus d'un an ou depuis plus de 3 ans, ils ont bien cette durée de non-travail.
Ah oui,
alors, est-ce qu'ils sont oisifs ?
On peut les considérer comme oisifs, oui. Enfin, mais ça, c'est pas un jugement. On a dit c'est un état. Bon, bah, ils sont oisifs. Ils sont. Enfin, voilà, si ça dure 3 ans, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est une forme d'oisiveté, oui, oui, oui. Pourquoi pas ? Mais je veux dire, ce n'est pas un jugement moral. Là, c'est juste c'est un constat d'un état.
Oui, oui.
Alors après, dire que ce qu'on dit, ça met en péril la société, c'est pas, il ne met pas en péril la société. Sauf que si tout le monde était au chômage dans la société, ça poserait un problème à la société. C'est ça que c'est. Enfin, voilà, l'idée de mon
intervention,
c'est ça. On ne peut pas fonder la société sur le chômage. Mais ça, c'est, voilà, on ne peut pas dire, moi, je rêve d'une société où tout le monde est au chômage. Voilà. Oui, François.
Oui. Sur cette question du chômage, je voudrais juste rappeler que normalement, le chômeur est censé chercher activement un emploi. De ce point de vue-là, normalement, il n'est pas vraiment oisif, puisqu'il est, il est occupé à rejoindre le modèle, quelque part. Par contre, je pense que ce qui m'interpelle dans cette interprétation sociétale de l'oisiveté, c'est tant qu'on s'en tient à cette vision, effectivement, et si on pense également qu'une forme de décroissance est quelque part incontournable pour ne pas couler complètement tous sous le poids de notre surexploitation de la Terre, comment est-ce qu'on organise un mouvement vers une société de décroissance qui est tellement opposée à la recherche de suractivité qui est le modèle actuel, en fait.
Oui, c'est une vraie question qui demanderait d'autres développements. Faut distinguer le travail salarié du travail en général. C'est-à-dire que dans un modèle décroissant, on peut cultiver son jardin, faire son pain, on peut salariés, mais qui ne sont pas non plus de l'oisivité. C'est-à-dire, cultiver son jardin, c'est pas du tout de l'oisivité. Faire son pain, je suis bien placé pour le savoir, c'est pas de l'oisivité, etc. Donc, faut distinguer. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre mindset, dans notre état d'esprit, on a tendance à assimiler le travail avec le travail salarié. Mais on peut imaginer du travail tout à fait en dehors du travail salarié. Oui, Annie, tu as demandé la parole, non ? Annie, oula, Madame de Oliveira. Bon, là, je crois que les mystères de l'informatique nous l'ont. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole pour réagir à mes propos extrêmement conservateurs et réactionnaires ? Ah, Guy.
Pour réagir aux propos réactionnaires, puisqu'on est là pour débattre, hein, bien sûr. J'ai quitté le monde du travail il y a 28 ans. Donc, j'avais payé mon billet, je ne suis pas un passager clandestin, bien sûr, hein, Pascal. Et depuis 28 ans, je crois que Je cherche encore un moment pour m'ennuyer. Je n'ai pas encore trouvé le temps de m'ennuyer. Pourquoi ? Parce que même quand j'étais en activité, j'avais une activité très prenante et j'ai toujours gardé du temps pour la lecture. J'ai toujours gardé du temps pour un peu d'oisiveté, oui, bien sûr. Mais ça m'a permis d'arriver à la retraite avec une aptitude à continuer dans ce sens de l'étude, toujours l'otium, le scolé. Et j'ai utilisé tout ce temps, et puis j'ai trouvé les cafés philo. Ilquin parlait de philo et d'oisiveté. Effectivement, 99, j'ai ouvert mon premier café philo, et ça m'a obligé d'aller à l'étude. Et ce temps qui n'est plus un temps de travail, et par contre, j'ai aussi œuvré dans des associations caritatives, j'ai œuvré en politique. Ce temps-là n'a pas été un temps perdu. Et heureusement, la philosophie m'a permis effectivement de bien remplir ce temps. Pour faire le lien entre oisiveté et philosophie.
Enfin, ça, c'est vraiment alors, un autre sujet, mais justement, puisqu'on a parlé de décroissance, je pense qu'une des conséquences de la décroissance qu'on aborde très rarement, c'est que dans une société décroissante, ça sera très difficile de maintenir des retraites. Les retraites, c'est fondé sur une société de l'abondance. C'est-à-dire qu'on produit tellement de richesses qu'on peut, pendant, comme tu dis, 28 ans, payer quelqu'un, fournir des revenus à quelqu'un qui ne produit plus. Voilà. Et c'est fondé sur une société de l'abondance. Proprement néolithique, hein, ça veut dire clairement, voilà, c'est le néolithisme qui permet, enfin l'agriculture, etc., tout ça, qui permet ça. Et ça, c'est une des conséquences qu'on dit rarement de la décroissance. Hein. Si on disait aux gens, voilà, vous préviens, hein, quand on sera dans la décroissance, vous devrez cultiver votre jardin jusqu'à 90 ans. Hein. Là, enfin, voilà. Mais enfin, en tout cas, ça mérite d'être posé. La question mérite d'être posée. On ne se rend pas compte de cette analyse dans société de pénurie, société d'abondance, qui est une façon d'aborder les sujets sociétaux que j'aime bien, moi. Donc, Annie, vas-y.
Oui, j'ai retrouvé ma connexion. Oui, en fait, on aborde le sujet du chômage, de la retraite et de la non-productivité, mais la productivité, il y a le sens du travail, effectivement, c'est-à-dire contribuer aux ressources, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi la productivité, j'ai envie de dire sociale, qui est aussi de participer d'une façon ou d'une autre à la vie sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément en termes financiers, mais on peut être productif. Ben, Pascal, comme tu le fais, tu animes un atelier philo, t'es productif socialement, ça ne te rapporte rien, et en fait, t'as quand même une participation, et ce n'est pas de l'oisiveté. Et donc, on pourrait, effectivement, comme disait François, en période de crise, on est quand même censé rechercher du travail, donc c'est pas de l'oisiveté, mais on pourrait imaginer que quelqu'un, par exemple, qui finisse par pas trouver de travail et surtout trouver dans l'impossibilité de travailler, bah, il peut avoir deux choix, c'est celui d'être effectivement oisif, mais ça peut être aussi le choix d'être utile sans forcément être rémunéré. Enfin, il n'y a pas forcément de notion d'argent derrière ça. C'est pour ça que tout à l'heure, moi, je repense toujours à cette chanson de Goldman, c'est à quoi tu sers, pourquoi tu es fait. Et pour moi, ça, c'est en dehors du temps de travail qu'on va passer dans notre vie de travailleur, et c'est-à-dire avant la retraite ou en dehors des périodes de chômage. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où on considère que on a des choses à faire pour soi ou pour les autres. Et en tout cas, en ce qui concerne la période d'inactivité et de non-productivité dont on parle, c'est-à-dire le chômage et la retraite, on peut très bien être très utile à la société sans produire quelque chose de financier. Voilà. Et je prends l'exemple du café philo parce que c'est exactement ça. Tu le dis pas, Pascal, parce que... Mais c'est vrai que c'est un acte citoyen quelque part de faire ça, et c'est pas, il n'y a pas d'argent derrière tout ça. Voilà, donc je pense qu'il faut pas, penser que c'est de la stigmatisation de gens ou retraités ou chômeurs. Enfin, pour moi, effectivement, l'idée de ne servir à rien Enfin, moi, c'est quelque chose que j'imagine pas personnellement, de ne servir à rien. C'est-à-dire de ne pas, à un moment donné, avoir un rôle social qui soit, et pas forcément pour 50 personnes, hein, mais ça peut être du voisinage, tout simplement. Voilà.
Oui, oui. Alors, ça, c'est pareil, faudra, enfin, on peut développer. Nelly. Leslie, excuse-moi.
Eh, c'est pas grave, on me l'a fait plusieurs fois. Hein. C'est britannique, alors c'est compliqué.
Je suis désolée.
Non, non. Je voulais juste rebondir et donc poser la question par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là. Est-ce que dans ces conditions, le chômage ou la retraite serait-il un vice ?
Non. Non, mais parce que, en fait, ce qui était intéressant dans la définition qu'a donnée Roger, il parle de l'état. L'inactivité, enfin, l'oisiveté est un état. Le chômage est un état. À la retraite, on est au chômage. Ce que dit la Maxime, c'est cet état peut, enfin, engendre. Alors, la Maxime dit cet état engendre des vices. Mais le comment dire ? La Maxime ne dit pas « l'oisiveté est un vice ». C'est la mère des vices.
Alors, est-ce que le chômage engendrerait un vice ou la retraite qui est une sorte d'état d'oisiveté aussi, enfin, ou qu'on peut, enfin, on peut en discuter d'ailleurs.
Oui, ça, non, mais par moment, il faut regarder. Enfin, c'est-à-dire que si on prend par exemple, il y a des statistiques là-dessus, l'alcoolisme chez les chômeurs est plus élevé que chez les gens au travail.
Voilà, on peut en débattre. Hein,
C'est, enfin, quelque part, c'est à peine un débat. Enfin, toi, il y a une forme de constat. Et mais quand on dit ça, c'est pas un jugement moral. C'est justement parce que dans cette maxime, c'est justement l'idée de dire attention. C'est presque un avertissement. Toi, c'est de dire attention. Si on encourage trop l'oisiveté, on risque de déboucher sur plus de vices. C'est pas de dire, c'est pas un jugement moral porté sur celui qui est oisif. C'est presque une, comme beaucoup de proverbes, hein, c'est de dire attention. Hein, si on fait ceci, alors il risque de se passer cela. Alors c'est souvent un peu caricatural, j'entends bien, hein, mais c'est pas, ça dit pas, en tout cas, ça ne dit pas l'oisiveté est un vice. C'est pas, enfin la maxime ne le dit pas en tout cas.
Bon, en tout cas, ça l'engendre. Et donc, enfin, en fait, dans la maxime, on comprend qu'il y a une perversion. C'est une sorte de perversion dès lors qu'on est dans un état d'oisiveté. Est-ce qu'on peut le tirer par les cheveux jusque-là ? Je ne sais pas. Parce que moi, je suis en train de tirer le sujet par les cheveux, en fait.
Oui, mais des fois, c'est bien. Mais je crois qu'elle dit simplement, elle valorise le travail, en fait, cette maxime. Mmh. Voilà, elle valorise le travail. Elle dit, voilà, la société a besoin de travail. Elle est fondée sur le travail.
Oui, mais si cette société peut pas, ou si le marché ne le permet pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah oui, ah non, mais là...
Parce qu'il y a le problème du marché.
C'est pas une analyse économique du tout. Mmh. Là, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas chercher à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, hein, clairement. Hein. Bon, je vais passer la parole à Guy.
Oui, je dirais qu'on ne travaille plus 16 heures par jour, on est passé à 35 heures et il y a quand même beaucoup moins d'alcoolisme qu'il y a un siècle. Donc, lier le temps de loisir et le temps de travail avec l'alcoolisme, je crois qu'il y a une propension, comme on l'a dit, chez l'individu, mais je ne pense pas que c'est lié au temps de travail.
Non, mais enfin bon, dans l'alcoolisme lié au chômage, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste lié au temps de travail, c'est peut-être aussi, enfin à prendre dans des considérations psychologiques, mais c'est le fait de se sentir inutile, c'est le fait de, voilà, on sait très bien qu'un chômeur, il a un sentiment d'inutilité, et que donc ça peut déboucher sur de la dépression, sur l'alcoolisme, sur des drogues plus ou moins dures, etc. Donc c'est pas juste le temps de travail qui fait ça, on est d'accord, hein, bien entendu, mais c'est exactement le mécanisme qu'essaye de décrire cette maxime de façon, encore une fois, un peu caricaturale, mais de dire attention, l'oisiveté. Et je vous dis, historiquement, il y a quand même des précédents. Enfin, la chute de Rome peut aussi s'interpréter comme Rome qui était devenue une société où les Romains ne travaillaient plus. Il y avait tellement d'esclaves, ils exploitaient les colonies, enfin, etc., que qui se sont fait détruire par des gens qui, eux, étaient dans l'action, l'activité, etc. Hein. Enfin, c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur on n'est pas des sociétés isolées, quoi. Est-ce qu'une société fondée sur l'oisiveté peut se défendre ? Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours où on n'a pas besoin de se défendre. Est-ce qu'une société basée sur l'oisiveté peut se défendre contre une agression extérieure ou intérieure ? On peut, enfin, ouais, quand on parle de civilisation, on est obligé de se poser ce genre de questions. Hein. On fait pas des. La civilisation, c'est pas un monde de bisounours, ça. Hein. Pour utiliser une expression à la mode. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui. Vas-y, Anne. Aloïs. Voilà.
Oui, Aloïs. Je reviens juste sur la maxime en tant que telle, parce qu'on en parle comme si la maxime elle-même parlait de la société. Alors, j'entends bien, et je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord avec l'idée que l'oisiveté n'est pas compatible, en tout cas pas structurellement avec la société, et qu'il y a une mise en garde, ça, d'accord. Mais dans la maxime, le champ lexical, c'est celui de la morale. On parle du vice, on ne dit pas l'oisiveté n'est pas bonne pour les autres ou l'oisiveté n'est pas bonne pour la société. On parle de la morale quand même. Je pense que c'est difficile de comprendre le terme de vice autrement. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on le fait tomber dans la morale s'il n'y a qu'une une explication civilisationnelle ou sociétale ? Est-ce que c'est juste une manière simplement pour la société d'inventer la morale pour que la société fonctionne ? Ça, c'est une façon de comprendre la morale. Est-ce que c'est autre chose ? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'interroge sur la question morale, du coup, aussi.
Vas-y, Guy.
Oui, si c'est sociétal, c'est plus éthique que morale. Et puis, je voudrais qu'on... puisqu'on va arriver peut-être... Oh non, pas encore, oui. À la fin. On n'a pas repris la formule d'Alain, quand Alain reprend le philosophe Alain, reprend la formule en disant « l'oisiveté est la mère de tous les vices », mais aussi de certaines vertus. Et de quelles vertus, à votre avis, s'agit-il lorsque Alain dit cela ?
Alors, il me semble qu'on l'a dit quand même, enfin, ça a été... Mais, bon, je vais laisser les autres répondre, mais... Personne n'en parlait, mais justement dans le cadre de pas parler de l'oisiveté, mais du repos, de l'ennui, ben toi-même, tu nous as parlé du plaisir de contempler la mer et les orages en montagne, donc ça, on peut considérer que ça fait partie des vertus. Hein,
mais... Et se questionner.
Et se questionner.
Se remettre en cause peut-être avant le temps.
Mais je voudrais, c'est dommage parce qu'elle n'est plus là, mais Annie tout à l'heure disait, bon, les cafés philo, moi j'ai tout à fait conscience, par exemple, que l'activité de café philo, c'est tout à fait la fonction du prêtre, au sens large, hein, dans ce que je disais, hein, les trois fonctions de la société, le producteur, le guerrier et le prêtre. Dans le prêtre, il y a le savant, hein, donc l'activité café philo fait tout à fait partie de ça, et j'ai tout à fait conscience que si je peux le faire, c'est justement, alors moi déjà à titre personnel, parce que je travaille en dehors de ça, mais il y a des fois quand j'entends certains philosophes sur France Culture critiquer le travail ou par exemple la décroissance, je ne peux pas m'empêcher de penser, de dire attention, hein, dans une société de décroissance, c'est pas sûr qu'on puisse payer autant d'universitaires. Je veux dire, si on peut payer, si on a autant d'universitaires, de chercheurs, de gens comme ça, c'est parce qu'on a des excès de production. Parce que aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus que 10% de la population qui est agricultrice. Au Moyen-Âge, c'était de l'ordre de 85%. Et c'est parce qu'on a... donc, 10% de la population nourrissent 90% de la population. Et donc ça, c'est parce qu'on a des techniques agricoles, etc. Si on en revient à d'autres techniques agricoles plus traditionnelles, il faudra 30 ou 40% ou je ne sais pas combien d'agriculteurs. Donc il est possible qu'on doive mettre des universitaires au champ, comme le rêvait Mao. Hein. C'est vraiment... Enfin, faut se rendre compte de ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... La décroissance, parce que c'est une bonne illustration, je trouve, de l'idée, c'est aussi plus de gens... au champ ou dans les usines, quoi. Hein, c'est voilà. Donc, je veux dire, cette activité voilà, de café philo ou de travail que je fais le matin, enfin bref, de lecture, d'étude, qui est aussi une forme de travail, mais qui n'est pas vraiment une production au sens de nourrir, de satisfaire. Alors, si on reprend la fameuse pyramide de machin, hein, de Marceau, on ne satisfait pas les couches basses de la pyramide, quoi. Leslie va me corriger parce que c'est la spécialité. Voilà, Maslow. Ah, c'est Annie aussi qui. Bon, bref. Mireille qui demande si le travail serait le père de toutes les vertus. Déjà, on passe de la mère au père. C'est intéressant. Je crois pas non plus. Hein. Il fait vivre la société. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus qui. Oui, c'est Leslie qui se demandait pourquoi, finalement, si c'est sociétal, on passe à la vertu. Enfin, ben parce que ça, c'est clairement la morale, elle est toujours liée à un système sociétal. Enfin, surtout la morale partagée, une morale commune, une morale qui n'est pas une morale nietzschéenne. Une morale partagée est une morale sociétale, enfin, ou civilisationnelle, enfin, comme on veut. Mais elle est. Et toute civilisation s'appuie sur une morale. Ça me semble, j'imagine pas une civilisation sans morale. Enfin, ça pourrait être un sujet. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer une civilisation sans morale? Pas évident du tout. Hein. Enfin, c'est un peu d'ailleurs une des limites du nietzschéisme. C'est-à-dire, si chacun a sa morale dans son coin, est-ce qu'on forme une civilisation à ce moment-là? Vous voyez, c'est intéressant. Non, enfin, je sais pas, mais ça mérite d'être posé, mais... Oui, Guy, parce que là, je parle beaucoup parce qu'il n'y a pas de prise de parole. Hein, sinon... Oui,
je pense que pour une civilisation, oui. On ne peut pas tellement parler d'une morale, mais d'une éthique. L'éthique, c'est la morale en un temps, en un lieu, dans une société donnée. L'éthique, c'est le bon et le mauvais, alors que la morale, c'est le bien et le mal. Je crois que c'est Socrate qui dit déjà, nous n'avons pas à apprendre la morale, elle est en nous. À force de regarder les gens qui vivent autour de nous, on va intérioriser les règles morales. Donc, éthique et morale, toujours comme le rappelait Deleuze, sont deux choses différentes. Ouais.
Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'utilise les mots morale et éthique exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que pour moi, une morale est toujours partagée et une éthique est personnelle. Mais il y a deux mots, c'est vrai que c'est intéressant de faire des nuances. Par contre, c'est évident qu'il y a... Enfin, morale est d'origine latine, éthique est d'origine grecque. Et donc, mais c'est le même mot en fait. Alors, mais après, c'est intéressant de voir qu'il y a en effet, on peut développer des sens différents à ces deux choses. Mais ce qui est sûr, c'est que à mon avis, une civilisation s'appuie forcément sur un ensemble de valeurs communes. Et donc, ça, on peut dire que c'est une morale, une éthique. Enfin, voilà. Ça peut être religieux, ça peut être philosophique, ça peut être ce qu'on veut. Mais donc forcément. Entre une maxime comme ça, qui est une maxime morale, elle a forcément un aspect civilisationnel. C'est, voilà. Oui, Aloïs.
Peut-être on peut revenir aussi à l'étymologie des termes vertu et vice. Vertu, ça vient, si je ne me trompe pas, de vir en latin, qui veut dire homme. Et il y a l'idée que les vertus, c'est ce qui font qu'un homme est un homme en vrai. Et le vice, du coup, c'est l'inverse, c'est une forme de déchéance, toujours dans cette idée qu'une humanité est à conquérir, qu'on conquiert sa propre humanité, et que du coup, d'où les quatre, ce qu'on appelle les vertus cardinales, là, dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Leslie qui en parlait, la tempérance, la force, le courage et la justice, il y a cette idée-là qu'un homme réellement accompli doit avoir ces vertus-là, et s'il ne les a pas, c'est un homme qui n'est pas accompli et qui a tendance à être dans la déchéance, et je pèse mes mots, dans l'idée qu'on se rapproche une forme d'animalité, alors que nous, on est appelés en tant qu'être humain à s'élever au-dessus de cette animalité. Je pense qu'il y a toute cette image, toute cette réflexion-là derrière. Et si on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, on est en train de dire que essentiellement, un être humain doit être actif et non oisif. Il y a une conception de l'être humain qui est derrière, qui est de dire que si on veut vivre sa dignité d'être humain, il faut être actif. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas forcément le travail, ça peut être le loisir, ça peut être plein de choses, mais ça ne peut pas être l'oisiveté. En tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi l'implicite, en tout cas, qui est derrière cette maxime.
Mais ça rejoint ce que disait Bergson, qui disait l'homme, on ne devrait pas l'appeler homo sapiens, on devrait l'appeler homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique, l'homme qui fait, au sens de, en anglais, to make, plus que to do, c'est vraiment fabriquer des choses. Et ça rejoint cette idée-là. C'est-à-dire que Bergson, donc là il en fait une question anthropologique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de morale et de civilisation, c'est en effet une question d'humanité au sens anthropologique du terme. Hein, c'est-à-dire que l'homme est un homo faber, c'est-à-dire qu'il a besoin de fabriquer. Et à ce moment-là, ça, donc on peut comprendre que la conséquence de ça, c'est que si on ne fabrique pas, ça va provoquer en nous-mêmes une espèce de crise anthropologique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se réaliser en tant qu'humain, au sens animal-humain. Hein. Donc il y a vraiment. Donc chez Bergson, c'est quelque chose d'assez fort, ça. Hein, parce que dire qu'on devrait être homo faber, c'est vraiment quelque chose de fort comme expression. Hein. Alors, François qui n'a pas beaucoup parlé, et puis, vas-y.
Oui, à vous écouter tous, en fait, je me demande si on ne peut pas poser cette question dans deux contextes complètement différents. L'un, c'est, on est dans un modèle de société qui est ce qu'il est à un moment, c'est le nôtre aujourd'hui, c'est celui de l'ancien régime avant la révolution, et à ce moment-là, quelque part, on va effectivement sans doute trouver, depuis la fin des gens qui chassent l'écueil, que l'oisiveté est la mère de tous les vices, au sens où elle finit par nuire à la société, au moins telle que la voudrait la majorité des gens. L'autre façon de se poser la question, c'est de se dire au fond, est-ce que si je pose cette phrase comme vraie, ça n'est pas une manière de définir ce que je veux interdire compte tenu d'un modèle de société que je cherche. C'est-à-dire, si je suis en train de me demander demain si je veux organiser une société de la décroissance, par exemple, donc je pose un certain nombre de règles, je vais définir l'oisiveté en relatif à ce modèle, et si ça se trouve, demain, effectivement, les chercheurs, les savants, les intellectuels, pour une bonne partie, deviendront des oisifs, dont on décrétera qu'il n'y a pas besoin, puisque la société qu'on vise, pour être pérenne, a besoin qu'il ne soit pas trop, pas trop en poids sur le reste du groupe, en fait.
Oui, ça c'est intéressant, parce que si je comprends bien, tu dis même la notion de travail est vraiment presque une définition morale, d'une valeur de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme travail ou pas. On peut éventuellement considérer que le travail de recherche n'est pas un travail utile à la société. Ça me rappelle le roman de Barjavel, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est Ravage, alors je l'ai lu il y a très très longtemps, hein, mais je crois que c'est suite à une catastrophe écologique, on décide d'interdire les machines. Et donc il est interdit de penser fabriquer une machine, quoi. Et puis je crois que ça se termine qu'il y a un gars qui arrive, qui a une super idée, je ne sais plus ce que c'est exactement, puis je crois qu'il se fait lyncher ou enfin un truc comme ça. Enfin, mais c'est... Je ne crois pas du tout à l'idée d'une humanité qui fabriquerait pas de machines, enfin d'outils. Même à l'époque chasseur-cueilleur, on ne chassait pas avec nos mains, quoi. Les humains, ils ont toujours utilisé des lances, des propulseurs, des arcs, enfin même il y a très très longtemps, quoi. Hein, on taillait des pierres. Roger s'amuse beaucoup avec le zoom de son... Donc, je veux dire, en Touraine, on avait visité un atelier de fabrication, de taille de silex, quoi. C'était impressionnant, et c'était il y a très très longtemps, avant le néolithisme, et déjà il y avait la séparation des tâches, enfin la division du travail, etc. Enfin, on avait l'impression, c'était un atelier de taille de silex. C'était vraiment impressionnant. Donc, quoi qu'on fasse, c'est pour ça que j'aime bien l'approche de Bergson, hein, sur le côté anthropologique, c'est qu'on sent que c'est quand même profond chez l'humain, ça, l'outil, la fabrication, enfin tout ça. Guy, après, refais-moi un style, ceux qui veulent la parole, d'accord. Annie, je t'ai vu.
Oui, okay. Les premières prises de parole, vas-y, donne déjà. Il y a d'autres prises de parole.
Non.
Bon, allez, vas-y, Annie, allez.
Merci, mais bon. Oui, c'était je me posais la question du statut particulier du sport, dans le côté à mi-chemin entre le travail et entre l'oisiveté et le travail, oui, parce que pendant le confinement, il y a eu, on était censé ne bouger que par nécessité. Et il y a eu cette exception par rapport à l'activité physique. Et j'ai le sentiment que cette activité-là, elle pourrait rentrer dans la catégorie des activités qu'on fait quand on est oisif, au même titre que contempler la mer. Et malgré tout, je pense qu'on aurait une meilleure opinion de quelqu'un qui irait faire du sport très souvent, plus que de quelqu'un qui irait contempler la mer très souvent. Et donc et ça rejoint la discussion qui vient d'y avoir sur le côté d'action. J'ai l'impression qu'on a besoin d'une action physique et que l'action intellectuelle, finalement, elle est pas visible, peut-être que c'est pour ça. Mais du coup, on a du mal à en avoir une reconnaissance, une vraie reconnaissance. Voilà, juste une petite remarque. Parce que quand même, cette histoire de confinement, ça m'a drôlement étonnée, cette histoire d'activité physique, avec tout ce qui en a découlé, notamment sur « j'ai le droit à ça, pas le droit à ça ». Voilà. Mais on sentait que c'était la bouffée d'air qu'il fallait mettre parce que sortir faire ses courses, c'était juste la nécessité. Et là, on arrivait dans quand même une autre dimension. Donc voilà, je me posais la question de la place du sport et de tout ce qui se trame aussi derrière le sport, dans l'idée qu'on a du sport actuellement, qui est certainement une vision assez différente de ce qu'elle a pu être au fil du temps. Parce que maintenant, être sportif et faire tout un tas d'activités sportives, ce n'est pas du tout considéré comme de l'oisiveté.
Guy.
Je remets le micro, oui, deux choses. Premièrement, je disais, j'avais pris une petite note sur quoi je voulais. Oui, déjà sur ce que disait Annie, le sport est loisir. Et là, on est dans la difficulté de cette limite, qu'est-ce qui est loisir et qu'est-ce qui est oisiveté? À partir du comment, de quel moment où on n'est plus dans l'oisiveté. C'est vrai que si on fait du sport, c'est dans cet état d'oisiveté qu'on va occuper son temps et faire du sport. Et donc, cette définition, il est assez difficile à définir l'oisiveté. Est-ce que lorsque je vais aller dans mon jardin, sur ma terrasse, pour entretenir les fleurs, est-ce que je suis encore dans l'oisiveté? Est-ce que je suis dans le travail? C'est assez difficile à définir. Et puis, je reviens tout à l'heure, sur un monde de travail sans travail. Je crois qu'un monde sans travail n'existe pas, il ne peut pas exister. Il y aura toujours du travail ou des activités. Enfin, il faudra toujours, bien sûr, créer des richesses. Et je pense qu'un monde avec des gens qui sont de moins en moins au travail, comme des gens qui toucheraient le revenu universel, on a déjà le RSA, ça n'a pas fait que des alcooliques. Je crois que ce monde-là, pour qu'ils ne tombent pas dans le vice, demande de l'éducation, et toujours plus d'éducation. Donc je pense qu'une société qui peut éviter de tomber dans le vice avec moins de travail doit demander encore plus d'éducation.
Bien, on approche de la fin de la séance, avant donc le poème... Gilles est toujours, oui, toujours parmi nous. Donc, avant le poème de Gilles et puis le choix du prochain sujet. Donc, est-ce que quelqu'un veut faire une dernière intervention? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a quand même abordé pas mal d'angles. Hein. Enfin, on a regardé le sujet sous différents angles. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. Donc, je te donne la parole, Gilles. N'en abuse pas.
Non, mais je vais peut-être être un peu long, comme toujours.
Ah, voilà. Vas-y, c'est pas grave.
Alors, l'oisiveté, état durable, sans occupation, sans travailler. Manière d'être dans le temps, à ne rien faire, à retrouver du temps. Studieuse oisiveté. L'oisiveté versus travail, c'est la santé. De oisive cigale en train de fourmiller. Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Dans l'inutilité, disponibilité, une aristocratie de sage oisiveté, un état permanent de pouvoir ne rien faire, un savoir-faire se satisfaire de ne rien faire, être inactivité en positivité, en train de faire homo faber, fabrication, en train de devenir être transformation, une vertu qui devient vice confiné, temps occupé, contemplation, in en action, loisir donné, valeur autonome donnée, confinement oisiveté, confinaction, penser, philosopher, regarder, écouter de la musique, lire, s'ennuyer ou créer, en souffrance, en puissance, acter et engendrer, et puis sens négatif, positif, vice, oisif, dissuasif, persuasif, insistant, suggestif, aptitude, oisive, débauche, paresse, mélancolie, déprime, oisiveté, subie, en liberté, choisie, motif ou alibi, de créativité, souffrance, passion, sagesse, civilisationnelle, parasite, stimulant, inertie, apathie, insensible, insouciance, nonchalance, langueur, voire de l'indifférence, ou la sensible ardeur, de l'énergie, l'allant, sobre, pierre, rabbi, Épicure de rappel, Épictète, sa mère de tous les vices et d'urgence, l'appel au vivant équilibre, changement de modèle, belle et rebelle oisiveté, de fidèle rebelle, des oisifs, tasse de thé, active oisiveté, aventureux, Alexandre le Bienheureux, André Comte Sponville, de rien, de tout, repos. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Du fond de son âme, l'ennui, le noir, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Pascal, l'oisiveté n'est bonne à rien. La vie, le monde est vide, avide plénitude, impermanence du bouddhisme, vacuité, option, ou la libération versus la liberté. Vertu qui tue, l'oisiveté, ou retenir de s'agiter, versus la volonté, l'indolence à acter, le non-agir ou état réfractaires à la volonté, et une forme d'active passivité, taoïsme, espace de distraction, de distractives activités. L'usage du vide, essai sur l'intelligence de l'acté, de l'Europe à la Chine, Romain Graziani a testé la futilité, une denrée essentielle dans ce monde de brutalité, Tatiana de René, les fleurs de l'ombre, obscurité. Vice et vertu qui tuent, il faut distinguer le toxique du vertueux, un cercle vertueux entre citoyens et politiques. Le temps est venu de l'inventaire de nos faiblesses et de nos vertus. Nicolas Hulot, telle une éthique qui s'évertue au vice, si vice tu aimes, vertu sème. Éloge de la paresse, l'oisiveté, expose aux tentations, manque d'activité, l'oisiveté est la mère de la philosophie, dit Thomas Hobbes, comme un défi, le travail est-il le père de toutes les vertus? L'oisiveté est la mère de tous les vices, mais aussi de toutes les vertus, dit Alain, libre service, l'oisiveté est la mère de tous les vices, l'égocentrisme en est le père, service compris, Dominique Noguez. Pour un couple, une thèse, l'oisiveté a toujours enseigné beaucoup de mal, dit l'Ecclésiaste, élève humanimal. Vanité des vanités, tout est vanité, buée, diluée, activité, tout est impermanent, inconsistant, vain, fragile, décevant, dérisoire. André Comte Sponville, qui s'efface, filasse, sur le fil dérisoire, fil Vincent Roca, l'autre Roca. Voilà.
Merci beaucoup, Gilles. Donc, on va maintenant passer au choix du prochain sujet. Alors, comme d'habitude, on va faire un sondage. Alors, je vous rappelle, en fait, hein, dans le sondage, il peut y avoir que 5 choix. Donc, voilà, c'est juste que essayer de proposer vraiment des sujets, je ne sais pas quoi, auxquels vous tenez. Parce que souvent, à la fin, on se retrouve avec 6 ou 7 et j'y arrive pas. Hein. Je vais essayer d'augmenter le nombre de choix, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Donc, est-ce qu'il y a des propositions de sujets? Oui, Guy?
Oui, suite à une conversation formelle que nous avons eue, et pour changer un petit peu des sujets liés à notre confinement, pour essayer de parler d'autre chose, je propose « Le monde est-il désenchanté ?»
Oui, le grand pan est mort. C'est vrai que c'est une conversation qu'on a eue et où je lui prenais comme argument, enfin pas comme argument, mais comme illustration, la chanson de Brassens, « Le grand pan est mort ». Très belle chanson de Brassens. Oui, Leslie.
Je propose aussi, pour changer, et peut-être pour changer carrément les esprits, quelle place pour l'aventure aujourd'hui?
D'autres propositions de sujets? Alors, je vous en propose un qui me préoccupe pas mal. Ah, François, vas-y.
Il y a François.
Oui, j'ai pas.
Vas-y, oui, je voulais proposer éventuellement l'éternité existe-t-elle?
Existe-t-elle? Annie? Oui, Annie. Tu proposes un sujet?
Je l'avais écrit, mais...
Excuse-moi, bah, oui, mais quand j'écris les sujets, moi, je ne vois plus les messages. Donc, comme je suis en train d'écrire le sujet du sondage, moi, je ne vois plus les messages. Là.
Je pensais que ça t'arrangeait qu'on l'écrive, en fait.
Non, en fait.
Donc, le doute, moteur ou frein pour comprendre le monde?
Ah,
belle question.
Le doute, moteur... Ouais, je vais juste l'aider parce que je pense que je ne peux pas aller au bout. Et je vous propose un sujet parce que je le trouve assez d'actualité. Quelle place pour la science dans la société?
Ah oui.
Là, je pense que ça sera pareil qu'aujourd'hui. Je ferai une intervention, au moins une, de participants. C'est un sujet qui me préoccupe tellement. Je trouve vraiment. Enfin bref. Donc voilà. Alors on a les 5 sujets. Hop, voilà. Allez-y, vous pouvez. Alors je vous rappelle, vous pouvez voter qu'une seule fois. Hein. Enfin, moi qui veux, c'est le système. C'est pareil, j'aimerais bien le changer, mais pour l'instant, je n'ai pas. Ah. Bon.
Oh non, pas une égalité encore.
Ah ben c'est pire que ça.
Ah bon,
il y a 4 égalités à 2.
On fait un deuxième tour.
Parce que là, c'est. Ou alors, il y aurait une méthode un peu vicieuse, c'est on prend celui qui a eu le moins de voix. Non, mais je.
Oh non.
Non, non.
On remet les quatre, peut-être voter, non?
Ben, je peux pas. Alors, je ne sais pas si je peux reproduire. J'ai l'impression que Jacques n'a pas voté. Jacques, oui, vas-y.
Si, j'ai voté pour.
D'accord.
Le monde est-il désenchanté?
Si, si, il l'a pris. Si, si. Jacques, je te vois. Le monde est-il désenchanté? Si, si, ça a été pris. Non, il y a Daniel qui n'a pas voté. Daniel, est-ce qu'elle est encore parmi nous? Daniel, tu as le droit de prendre la parole et de décider du sujet, parce que tu es la seule à ne pas avoir voté. Donc, si tu votes, sauf si tu votes pour l'éternité existe-t-elle, auquel cas tu nous plongerais là, dans un abîme d'indécision. Là, on serait chez Gödel, là, on aurait démontré l'indécision.
La choisir.
Alors, vas-y, Daniel. Ou alors par un petit message, si ton micro ne marche plus. Ah si, vas-y.
Je n'ai pas bien participé parce que j'ai été coupée en permanence et je n'ai pas donc pu suivre tous les échanges. Je suis arrivée à la fin. Donc, je me plie à la communauté, moi.
Non, pas possible. La communauté a été nulle. Elle a été incapable de choisir un sujet, là. On ne peut pas se fier à une telle communauté.
Mais si, ils nous intéressaient tous, alors, ça veut dire. Ils étaient tous bons.
On pourrait faire un sujet sur l'indécision.
Est-ce qu'on ne pourrait pas te déléguer un pouvoir arbitraire pour choisir?
Ah, voilà, ça y est. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, j'étais un prêtre. Voilà, alors, ça y est. Mais le prêtre n'est qu'un intercesseur. Hein. Il ne peut pas... tu comprends? Ce n'est pas lui qui absout, hein.
L'autre fois, ça s'était tiré au paquet de mouchoirs. Hein.
C'est vrai. Ouais, mais alors là, il y en a quatre. Alors, non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire le prêtre. Je vais choisir que deux sujets. Vous voterez sur deux sujets.
D'accord. Donc,
je vais prendre Le monde est-il désenchanté? Et puis, alors, comme ma femme en a proposé, hein, je suis un peu obligé. Hein. Donc, le doute moteur ou frein, voilà. Hein, donc, on va revoter sur Le monde est-il désenchanté et puis sur le doute. De toute façon, le doute est très proche de la science. Donc, ça ne me dérange pas. J'adore les sujets sur le doute. Par exemple, la différence entre le doute et le soupçon, par exemple. Ça, c'est un vrai... Voilà. Je ne sais plus, c'est la place du doute. Enfin, bon, c'est pas grave. Je mets la place du doute. C'était quoi exactement, Annie, le sujet? Je ne le revois plus.
C'était le doute, moteur ou frein.
Moteur ou frein, ben, ça va aller.
Moteur ou frein pour comprendre le monde.
Voilà.
Bon, voilà. Allez, donc, tac. Voilà, c'est reparti.
On va te faire une petite égalité.
Non, là, c'est bon. Là, boum. Donc là, Vox Populi, Vox Dei, donc ça sera le doute, sans aucun doute. 6 contre 3.
C'est quand même la base de la philosophie. Hein, mais...
Ah bah, entre autres, ah, oui, non, c'est vrai, le doute,
On est presque obligé, quoi. On se sent obligé.
Non, mais les deux sont intéressants. Enfin, c'est vrai que les deux...
Une autre fois.
Mais comme même Guy a voté pour le doute, alors que c'est lui qui avait proposé le désenchantement, là, c'est que... Bon. OK. Je vous remercie. Donc, la prochaine fois, ça sera le doute moteur ou frein pour comprendre le monde. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, je sais que je vais en retrouver certains cet après-midi.